Hey Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.
Ouvrez vos livres, page 394. Silence, page 394.
Anyway, lead on, allons-y.
Bienvenue chers auditeurs dans ce nouveau numéro de Plop, où je suis de nouveau accompagné par Gwen. Comment ça va Gwen?
Ça va et toi?
Ça va,
ce lundi d'avant Noël on va dire.
Tout à fait, et tu me donnes une très très bonne transition, puisque nous avons décidé de vous accompagner pour ce dernier rush avant Noël, en vous donnant des idées cadeaux avec nos coups de cœur qu'on a beaucoup aimé. Pour ma part ce sera donc de la bande dessinée, avec Pas de jaloux, deux franco-belges, deux comics et de manga. Et du coup, je suppose que toi, ce sera de la jeunesse.
Bah, moi, c'est un peu tout ça. J'ai un peu traîné dans la librairie l'autre jour et puis j'ai fait « Ah, ça j'aime bien. Ça, c'est nouveau, mais c'est trop bien. Ah, mais ça, c'est trop mignon. Et ça, c'est trop bien. » Alors, du coup, il y a de l'adulte, il y a de la jeunesse, il y a du ado, il y a un peu de tout. C'était vraiment les courses. C'était vraiment
le marché. Tu as fait aussi comme moi deux ados.
Pas du tout. Non. Franchement, juste des coups de cœur.
Tu as fait au pif.
Ah ouais, vraiment. Que des coups de cœur. Et j'en ai gardé deux, trois autres si on avait un peu plus de temps. Tu sais, en mode, on sait jamais. Si je peux en parler encore de plus, je parle.
Il y en a un petit peu plus, je vous le laisse.
C'est ça, voilà, c'est comme chez le boucher. Donc, c'est parti.
Vas-y.
Et bah, c'est parti pour la première critique d'Oplop, des coups de cœur de Noël. On va commencer par un album pour les petits. Je vais la faire en mode par âge. Moi, j'ai un peu pas organisé par âge, on va dire. Et donc, c'est un de mes copains, enfin, de nos copains ici à Ivry, c'est Pas de panique, petit crabe de Chris Hutton. Alors, Chris Hutton, auteur multiconnu maintenant, avec son design très graphique, très drôle et très humoristique. Et là, dans celui-là, j'aime bien parce que... Alors, pourquoi je l'aime bien par rapport aux autres? C'est parce que déjà, il y a un crabe. Déjà, le héros est un crabe. Et des albums où il y a des crabes...
C'est cool.
Bah, c'est rare, ouais. Déjà. Franchement, son crabe est cool. Son crabe est cool et c'est un crabe. Je veux dire, moi, j'adore les crabes. Je sais, j'ai fait des vannes avec Krabby Jacob à une époque. Enfin, on en parlera dans une autre émission. Mais donc voilà, les crabes, c'est cool. Et petit crabe, aujourd'hui, il va voir l'océan. Donc il va avec très grand crabe, il va aller voir l'océan et tout ça. Et c'est trop beau l'océan. Waouh, il est trop bien. Puis là, il prend une grosse vague dans la tronche. Je fais, ouais, bah c'était cool l'océan, mais ouais, ça me suffit quoi. Ça me suffit pour aujourd'hui, c'était bien, hein, mais on y retourne. On part à la maison dans notre petite mare. Non, mais attends, reviens. Et puis il continue de se rapprocher de ça. Et puis à chaque vague, il fait, ouais, non, vraiment les gars, ouais, j'ai compris, j'ai vu. C'est cool l'océan, mais pas plus. Pas plus pour aujourd'hui, j'ai peur d'attraper froid et tout ça. Jusqu'au moment où, bien sûr, il va rentrer dans l'océan. Et là, il découvre le monde merveilleux sous l'océan, avec plein de poissons multicolores. Il fait des parties de cache-cache, il va à l'école et tout ça, c'est trop, trop bien. Et puis maintenant, quand il faut rentrer à la maison, bah, il a plus envie de rentrer. Forcément.
Bah oui, forcément.
Forcément. Et ça, c'est un premier coup de cœur que j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas une nouveauté parce qu'on est dans les semi-nouveautés. Il a quand même une petite année maintenant. Mais du coup, voilà, une petite nouveauté pour les petits de 4-5 ans. On commence pour les tout-petits, pour les jeunes. Et c'est plutôt sympathique.
La question que j'ai, c'est est-ce que quand tu ouvres le livre, t'as la musique du Disney qui...
Non, malheureusement, il n'y a pas de musique Disney dedans. Tant mieux. C'est mieux parce que c'est mieux que Disney.
Ah, sous l'océan, quand même.
Ouais, mais c'est mieux que Disney.
Oh.
Allez, mieux que Disney. Allez, à toi. Zip-shibam.
Alors moi, je vais complètement changer de genre, puisqu'on va partir sur de l'adulte avec Burn, Baby Burn, un roman graphique où on est sur deux périodes temporelles. On est avec 1965 et 1992, et on a des émeutes afro-américaines qui a lieu, parce qu'il y a eu des gros crimes raciaux à ces deux dates-là. Et en fait, dans ce chaos ambiant, il y a un serial killer qui fait ses basses besognes. Et donc, en 1995, comme ils n'ont pas réussi à l'attraper, ils n'ont pas réussi à l'attraper en 65, donc en 92, le commissaire, qui était flic à l'époque, va décider de rappeler son ancien collègue pour essayer de choper ce fameux serial killer. Ce que j'aime beaucoup avec cet album, c'est qu'on a que deux couleurs. On a une couleur bleue pour 65 et jaune pour 92.
Un peu comme Sin City avec le noir et blanc ou c'est plus la...
Non, c'est vraiment...
C'est vraiment la colorimétrie de l'album, quoi.
C'est ça, c'est vraiment la colorimétrie. On est bleu sur le passé et jaune pour le présent.
D'accord, ouais, c'est pas...
Et on va suivre du coup plein de personnages qui gravitent autour justement de cette affaire-là. Et c'est super bien fait très bien raconté et avec en plus des petits twists que moi personnellement j'ai pas vu arriver. J'ai lu plein de BD polar justement et en général quand les twists commencent à être un petit peu évidents, je les sens arriver. Là pour le coup le twist je l'ai pas senti arriver.
C'est que la BD est bonne dans ces cas-là. Quand ça, on arrive à se faire surprendre malgré qu'on en lit beaucoup, c'est que la BD est bonne. Ouais.
Et le qui est sur un fond un peu réel parce qu'il y a eu vraiment
les émeutes bien sûr.
Voilà parce que je l'ai pas dit mais c'est à Los Angeles du coup.
D'accord, ok.
Et c'est vraiment très 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 bon et je vous la conseille vraiment si vous voulez offrir du très bon polar un peu noir.
Vas-y, question à la con, ils l'ont trouvé le meurtrier ou pas à la fin?
Oui.
Les mecs qui balancent la fin. Alors, ils l'ont trouvé, c'est qui? Vas-y, dis, balance. Si, non, dis pas.
il retrouve le meurtrier et
justement, ouais, non, dis pas
c'est,
tout.
C'est voilà. L'un des petits twists. Justement.
Ouais, ouais, c'est ça. J'allais dire, comment balancer la BD à la poubelle derrière, tu sais. Alors, le meurtrier, c'est lui, on le sait depuis le début. Ah bah merci, bon bah super,
et en
tu peux lâcher.
C'est Émile le tueur.
C'est
voilà.
Ça. C'est Émile. Dans le salon avec le candélabre.
C'est ça.
On s'en doutait. Bon, voilà, après cette petite vanne. On va enchaîner pour les un peu plus grands. Alors moi, je grandis gentiment, tu vois, c'est genre un an. Tu vois, là, on a fait du 3-4 ans, je vais faire du 5-6 ans.
Ah non, mais moi, je suis adepte du grand écart. Hein.
Ouais, mais moi, j'aime bien, il y a un petit côté... Et puis surtout que j'adore Brionne Mae Smith. Brionne Mae Smith, c'est une de mes nouvelles copines aussi, maintenant. Elle a fait Mon Amie la Licorne, elle a fait plein de choses. Et aujourd'hui, ce sera Mon Amie la Licorne, qui est le plus ancien, d'ailleurs, de celle qu'on a. Et elle a fait Ma Petite Sorcière au monde Halloween, qui était trop mignon aussi. Et Mon Amie la Licorne, j'aime bien, parce que moi, j'aime pas les histoires de licorne en général, parce que bah c'est chiant. Enfin, soyons honnêtes, il y a plein d'histoires de licornes qui sortent en librairie. C'est pas que c'est chiant, mais c'est juste que c'est pas terrible.
Je parlerai un jour de Mon père est une licorne, on en reparlera.
Je suis d'accord, mais d'accord, on en reparlera de celui-là un jour aussi. Mais du coup, c'est vrai qu'effectivement, les licornes, en général, l'histoire est pas super intéressante. C'est souvent très cliché, justement, exprès, parce que on se dit, c'est des licornes, de toute façon, ça suffit, quoi. Pas besoin de s'embêter à faire une vraie histoire. C'est et ça. Là, elle fait une vraie histoire, puisqu'elle raconte cette histoire à cette petite fille. Et là, on part du principe que les licornes, c'est des animaux migrateurs. Genre, ils vont sur les nuages et puis, ils galopent sur les nuages, quoi. Et on retrouve cette petite licorne qui a été abandonnée par ses parents, peut-être trop petite et tout ça. Donc elle va être nourrie à l'eau de lune, l'eau de pluie qui a coulé dans la lune, des trucs comme ça, avec des belles fleurs fluorescentes, pour qu'elle survive, la petite licorne. Et à la fin, ses parents viennent la chercher, bien sûr. Et à chaque migration, la licorne reviendra voir son amie, sa copine humaine. Et je trouve ça trop trop mignon. C'est beaucoup trop mignon d'ailleurs. Même les illustrations sont beaucoup trop mignonnes. Ces licornes sont beaucoup trop adorables. On a trop envie de faire des câlins à toutes ces licornes. Malgré que je ne sois pas licorne, j'ai envie de faire des câlins.
En plus de ce que je vois de l'album, on n'est pas non plus sur la licorne cliché entre guillemets.
Non, c'est ça. C'est que la licorne est beaucoup plus animalière.
C'est ça.
On est plutôt sur un gros chat.
C'est ça.
Comme elle est mignonne quand elle va dans les petites vagues. Elle galope comme un petit chien.
On a vraiment l'impression, c'est ça, que c'est un vrai animal et pas un animal fantastique.
Bah ouais, c'est pour ça en fait.
Et je trouve ça vraiment pas mal le fait.
On va la nourrir, on lui donne. Voilà, elle dort dans le lit de la petite fille dans son petit panier. Enfin, voilà, il y a vraiment un côté animalier que je trouve vraiment plus intéressant par rapport à d'autres albums sur licornes. Et ça, j'adore. Et pour les 5-6 ans, franchement, sur des licornes, si vous en connaissez des meilleurs, vous m'appelez. Mais là, moi,
Vas-y. Coup, je me permets de placer juste ça. En BD, du Santex, justement, il y a la série des Lily, où justement, c'est une jeune fille, une princesse, qui devient une super-héroïne la nuit, et qui, le premier album, est justement sur retrouver une licorne. Et je le trouve assez joli, parce que c'est du sans texte, mais voilà, c'est une première lecture, justement.
D'accord.
Qui peut être en complément, justement.
Ouais, c'est ça, ouais. En première lecture, c'est pas mal aussi. Ok, ok.
On va repartir sur de l'adulte, du coup, avec ma deuxième BD franco-belge, qui est plus un roman graphique, j'ai un peu triché. On est sur...
On a dit coup de cœur, on n'a pas dit forcément, il fallait s'arrêter.
C'est ça. On va partir sur The Magic Order, ou l'ordre de minuit, où on va suivre, pendant cette BD-là, deux sorcières, Johnson et Sheridan, qui sont en charge d'éliminer les sorcières qui deviennent un peu trop puissantes et qui pourraient blesser elles-mêmes et autrui. Et donc on va les suivre tout le long de les différents récits, parce que j'en ai pas encore parlé, mais c'est scénarisé par Mathieu Bablé, qui a fait entre autres Shangri-La, Carbone et Silicium, qui ont été des grosses BD de science-fiction à succès les années précédentes. Et là, en fait, il n'a pas dessiné, enfin, il dessine une petite partie, mais c'est un récit collectif en termes de dessinateur. On a de mémoire une douzaine de récits, et c'est un dessinateur différent à chaque fois. Donc ça, c'est l'une des forces que je trouve, moi, personnellement. Parce qu'on pourrait se dire, ah bah c'est un peu décousu, on se retrouve pas forcément. Mais pour le coup, c'est comme on a un vrai fil rouge, une vraie histoire continue de bout en bout, bah en fait, on évolue, ne serait-ce qu'en termes de temps. Donc forcément, c'est pas choquant que le style change, et c'est vraiment très intéressant. Et pour continuer dans l'histoire, après avoir justement établi un peu nos deux héroïnes, de montrer quel était leur boulot, on va se rendre compte en fait que l'une des deux va commencer à un peu douter sur leur travail, surtout que la prochaine sorcière à éliminer mais à contrôler, c'est la sœur de Johnson. Et donc, toute cette question de est-ce que on va s'en prendre à elle, sachant qu'en plus, quand il neutralise une sorcière, il lui coupe les mains justement pour plus qu'elle fasse de magie.
C'est un peu barbare, quoi.
Oui, c'est vrai. Et il lui coupe les mains et il l'exile dans une autre dimension.
Ah ouais.
Voilà. Donc du coup, c'est toutes ces questions de est-ce que ce qu'on fait, c'est pas trop barbare.
Est-ce que je bosse pour les gentils, quoi.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que je bosse bien pour les gentils, en fait.
Tout à fait. Et c'est graphiquement très joli parce que on a différents styles d'auteurs qui sont beaucoup du label 619, parce que c'est une BD qui est sortie au label 619. Label 619, pour vous resituer, c'est notamment Mutafukaze, c'est Freak Squill, c'est plein de licences assez marquées graphiquement, je vais dire ça comme ça. Et en plus, la BD, alors je l'ai pas là avec moi pour te la montrer, mais il faut que tu l'imagines, elle est c'est une BD avec une dorure sur la couverture.
Ok.
Une dorure un peu...
Ah, et vous aussi, essayez d'imaginer.
C'est ça. C'est un livre noir dorure, et vraiment ce côté un peu grimoire finalement de sorcière, et c'est vraiment superbe.
Pour un peu imitation cuir à la couverture, quoi, aussi.
Pas forcément
ça. Imaginez-moi. J'imaginais trop. Imaginez-moi.
Mais voilà, on a ce côté un peu grimoire, et vraiment c'est une très bonne BD. Je note aussi les passages où il y a que du texte, c'est des petites nouvelles du coup.
Ouais, du coup,
pareil,
ouais.
dans l'univers de l'Ordre de Minuit. Et à noter aussi que en fait cet Ordre de Minuit, c'est pas la première fois qu'il apparaît en bande dessinée, parce que c'était le même ordre qui était dans la série Midnight Tales. Et c'est une série, pareil, qui était sortie dans le label 619, où c'est justement c'était des petits récits comme ça, des petites missions en fait.
Ouais, donc c'est un univers, quoi. Du coup,
c'est un univers là. Mais du coup, il y a pas besoin forcément d'avoir lu cet univers là, enfin ces BD là, pour.
C'est juste qu'on peut les retrouver effectivement. On retrouve ce personnage là. D'accord.
Donc, je vous la conseille aussi si vous voulez.
Bah, de toute façon, tout ce qu'on vous dit là, on vous les conseille.
Oui, tout à fait. Évidemment, évidemment, mais. Voilà, c'est une BD qui, je trouve, est un peu passée inaperçue là en cette fin d'année, parce qu'il y a tellement de grosses sorties que je voulais
Après, c'est plus proche du roman graphique du coup que de la BD traditionnelle, c'est ce que tu disais.
Tout à
quoi.
Fait. Voilà. Bah, même le pour le coup, même le Burn Baby Burn est vraiment un format roman graphique.
D'accord.
Parce qu'on est sur du format à l'italienne, donc c'est un format qui n'est pas, on va dire, pour être médisant à la BD de papa.
C'est ça.
C'est
pas le format Astérix, quoi.
C'est ça, c'est pas le format Astérix, mais c'est justement des BD qui changent un petit peu. Et j'ai à cœur de présenter
c'est
des BD qui changent.
En même temps, c'est le but du jeu aujourd'hui.
Tout à fait.
Allez, première lecture. On continue de grandir. Oscar et Carros, la soupe de pâtes. Alors j'adore. C'est de la lecture, c'est de la première lecture. Donc là, on est vraiment sur des CP. Début de lecture, donc là, ils vont commencer à pouvoir les lire même tout seul d'ailleurs. C'est Oscar. Oscar, c'est un squelette. Comme on voit bien sur la couverture, c'est un squelette. Et comme tous les squelettes, il est squelette de fête foraine. Il fait peur dans le train fantôme. Bah, c'est vrai que les choix de carrière pour un squelette.
C'est vrai, c'est pas.
On n'a pas. Voilà.
Il y a soit être exposé au musée, soit.
Soit cours de sciences nat, soit faire peur. Quoi.
C'est ça.
Et du coup, il a pas de défaut dans sa vie, mais du coup, il vit dans une roulotte, du coup, de fête foraine, forcément. Et puis surtout, il aime pas les chiens. J'imagine pourquoi, hein, des os, un chien, voilà. On voit bien la logique. Donc du coup, sur sa pancarte, marqué interdit aux chiens, machin, cassez-vous, quoi. Et donc à chaque matin, il se fait poursuivre par des chiens, forcément, parce qu'ils sentent les os, quoi. Et du coup, à un moment, il voit devant sa porte un petit chien, il est tout mignon, ce petit chien, d'ailleurs, il est tout adorable, il est trop gentil, il est tout mignon, il s'appelle Carros, il est trop mignon, moi j'aime beaucoup sa
effectivement.
Petite bouille. Il a une petite bouille toute mignonne, puis il lui dit, qu'est-ce que tu fais là, tu sais pas lire? Bah non. Puis il revient dans l'après-midi, Oscar, il ressort de sa roulotte et il y a toujours le petit chien devant sa porte, quoi. Il fait, mais qu'est-ce qu'il y a, tu sais vraiment pas lire? Bah non, vraiment, je sais pas lire, en fait. Donc moi, j'ai faim, c'est tout, en fait. Il cherche à manger. Et donc, Oscar va lui apprendre à lire et va lui donner à manger, forcément, ce qui est sympa quand même. Oscar, il aime pas les chiens, mais il est cool, quoi. Il va lui apprendre à lire avec les pâtes alphabet.
Ah, d'accord.
À l'ancienne.
J'étais en train de me demander, mais où vient la soupe de pâtes, du coup?
Eh ben voilà. Parce que du coup, il lui apprend à lire en écrivant des mots dans la soupe de pâtes. Et du coup, jusqu'au moment où Carros, puisque c'est son nom, va savoir lire, vraiment. Et du coup, il lit ce qu'il y a sur le panneau.
Ah.
Et il fait interdit au chien, il fait bah mince. Et donc, il s'en va. Et là, Oscar va dire, merde, normalement, j'ai perdu mon ami, là, quand même. Donc, hop, il va le rechercher. Et du coup, ça donnera toute une petite série de romans autour d'Oscar et Carros, qui sont trop adorables tous les deux. Mais j'aime beaucoup le premier, qui a cette thématique un peu plus intéressante, on va dire, même si les autres sont toujours très drôles et très intéressants. Mais cette thématique de la lecture. L'apprentissage de la lecture, la difficulté d'apprendre la lecture aussi, pour les petits. Et du coup, c'est trop bien illustré, d'Irène Bonassina.
Pour le coup, c'est, vaut mieux commencer par celui-ci. Tu dis qu'il y en a d'autres, mais vaut mieux commencer par celui-ci.
Ouais, bah, pour la présentation des personnages, voilà. Et puis la thématique, franchement, la thématique de la lecture est vachement importante. Donc c'est chez l'école des loisirs, j'ai oublié de le préciser, c'est chez l'école des loisirs chez Moucheron.
Oui.
Dans la petite collection première lecture, c'est trop mignon, c'est illustré par Irène Bonassina, que j'aime beaucoup. Et voilà, et ça se rend trop bien. C'est une première lecture comme on aime, c'est-à-dire agréable, drôle et intelligente. Voilà, hein, que demander de plus? À part en avoir plus des premières lectures comme ça. Ça, c'est ce que je veux.
Décidément, je vais continuer dans le grand écart parce que je vais vous parler de Billionaire Island, qui est le premier comics dont je vais vous parler aujourd'hui. Billionaire Island, ça a été mon gros coup de cœur de cette fin d'année en comics. Je vous fais le pitch très rapidement. On est 2040-2050, la planète est encore dans un plus sale état qu'actuellement. Et donc, on a tous les gros milliardaires et millionnaires qui se disent, bah, en fait, on va créer une île flottante dans les eaux internationales. Comme ça, on peut faire ce qu'on veut. Et le droit de rentrer pour rentrer, alors je sais jamais si c'est 3 millions ou 3 milliards, mais c'est déjà beaucoup d'argent. Et du coup, on va faire ce qu'on veut sur cette
île. Le classique, les riches qui se planquent dans un coin tranquille, en mode, on reste riche chez nous, quoi.
Tout à fait.
Les riches chez les riches, et puis les pauvres des merdes, quoi.
C'est ça. Et du coup, on va suivre une journaliste qui va justement essayer d'un peu enquêter, parce que c'est très flou. On a des spots publicitaires, justement, pour inciter aux milliardaires de venir sur l'île, mais pas trop... c'est très, très flou sur ce qui se passe sur cette île-là. Évidemment, la journaliste...
Il y a un côté Corée du Nord, là-bas, quoi.
C'est ça.
La journaliste... Tu rentres, mais tu sors pas, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire que la journaliste va se faire prisonnière. C'est-à-dire qu'on a le pseudo Zuckerberg qui veut dire « Ah ben, il y a quelque chose dans cette porte-là, derrière cette porte-là. » Et bam, voilà.
Regarde, ouvre la porte.
C'est ça.
Ah, mais disons, c'est une prison.
Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est évidemment la critique des milliardaires que peuvent être Zuckerberg, Bezos, Weinstein et compagnie.
C'est pas suicidé, lui, entre-temps, Weinstein, par contre.
Je sais plus,
c'est le... Bon, bref.
Peut-être. Mais du coup, on a clairement une référence à cette
Elon
aventure,
Musk.
Voilà.
Elon Musk aussi, enfin.
Tout à fait, voilà. Et du coup, c'est vraiment très bien fait. Et sur le petit point que j'aime toujours ajouter, c'est que l'auteur, donc Mark Russell, son précédent titre, ça s'appelait Prez. Je te fais le pitch. Tu as un président qui dit que les médias sont pas terribles, qui flirte avec l'extrême droite. Ça doit commencer à te rappeler quelqu'un.
Emmanuel Macron. Ah non, merde, c'était pas l'autre.
Ah,
c'était l'autre.
C'est presque.
C'était l'autre.
Et du coup, tout ça avant Trump.
D'accord.
Voilà. Donc, ça fait un peu flipper, on va pas se mentir. On se dit que ça pourrait arriver. Et donc, c'est vraiment pas un récit d'anticipation, parce que on se doute bien qu'ils sont pas tous comme ça et que...
Oui, puis ça peut pas être un récit d'anticipation vu que ça s'est pas produit. C'est compliqué.
C'est ça.
Voilà.
Et du coup, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment ce côté satire de montrer que, il y a notamment un gag que moi j'adore. Avec un PDG un peu spécial, je vais pas trop en dire pour pas vous spoiler, mais et vraiment cette BD m'a vraiment mis une grosse claque et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai failli la laisser passer, en fait. C'est parce que je l'ai vu arriver, je me suis dit, bon, le pitch, ok. Et c'est quelqu'un que je suis qui est le directeur de Comics Blog, qui a traduit en fait cette BD là. Et quand j'ai vu que c'était lui, je fais... En général, lui, il a du goût. On va regarder.
On va quand même jeter un œil, ouais.
Effectivement. Donc, je suis assez fier de le présenter à chaque fois. Et en général, quand je fais le pitch, ça fait mouche. Voilà.
Bien joué. Allez, on continue de grandir chez moi. Moi, je continue de grandir.
Non, mais en fait, moi, tout le monde était grand, en fait, chez moi.
Ouais, voilà, mais moi, non, moi, j'aime bien. Allez, avec une série que j'aime beaucoup. Alors, j'en ai pris un aujourd'hui, parce que, voilà, pareil. Autant, voilà, Valentin, il arrive sans les livres, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai besoin de mes livres. Je sais pas pourquoi, j'ai besoin du contact.
Et là, c'est moi, tout est dans la tête, hein, que veux-tu?
Ah, bah, moi aussi. Mais, je sais pas, j'aime bien les regarder, mes bouquins, quand je leur parle. Je trouve ça mieux. Oui. Mais c'est très personnel. J'ai ramené une collection que j'aime beaucoup, c'est Torben Kullman. Torben Kullman, avec sa collection de souris, souris ingénieur, si je puis dire, puisque ces collections de souris, ça va être Einstein, Edison, Lindbergh. En fait, c'est un mélange d'albums et de documentaires autour de souris qui nous refont le parcours de scientifiques et de comment on a découvert la théorie de la relativité, là, pour Einstein, la théorie du temps. Et du coup, pour Lindbergh, c'est bien sûr le vol. Pour Edison, c'est je sais plus quoi. Enfin, bref.
Celui-ci, enfin, je sais que vous n'en avez... je vais pas y arriver.
1, 2, 3.
Yes, ces livres-là, vous nous les aviez donnés pour Bulder.
Oui.
Pour qu'on les vende sur le stand. Et je les trouve superbes.
Mais ils sont trop beaux.
Super beaux graphiquement. C'est le dessinateur, je ne sais pas qui c'est pour le coup.
Bah, Torben Kullman.
Il fait les textes.
Ouais, ouais.
Et bah, franchement, il est super doué parce que graphiquement, c'est...
C'est
super beau et si jamais il fait de la BD, ça serait superbe.
Faudrait se renseigner là-dessus. Mais effectivement, et ce côté mélange documentaire-album, en fait, puisque du coup on suit des souris quand même, ça reste des souris quoi. Faut pas déconner, mais ça reste des souris qui vont se renseigner sur les technologies modernes et comme Einstein comme cette petite souris qui va essayer un voyage dans le temps, si je puis dire, enfin, qui va essayer de comprendre l'espace-temps de la théorie de la relativité d'Einstein quoi, et tout en étant à son niveau de souris quoi. Et c'est trop intéressant, et comme tu le dis, graphiquement c'est une perle, enfin vraiment c'est du. Moi je le conseille à 7-8 ans en général. Mais il y a des schémas, il y a des trucs là-dedans, mais c'est trop trop bien.
Mais en fait, tu le conseilles à 7-8 ans, mais en vrai, je pense même pour des adultes, je pense que ça peut passer en fait.
Oui.
Parce que.
Oui, c'est juste qu'en général, que je le conseille à 7-8 ans, c'est ça.
C'est ça. Il est tellement beau graphiquement, pour le coup.
Ah oui, bien sûr. Ah, moi, j'ai déjà conseillé à des adultes, il n'y a pas de souci. Ouais. Hein. Mais c'est vrai qu'effectivement, en général, on le conseille à partir. Après, c'est comme tous les livres, de toute façon.
C'est comme ça.
Toujours dans tous les livres sur Terre, je pense. Il s'adresse forcément à un âge comme le Chris Hutton. Mais
c'est
bon, moi, je l'ai lu, Chris Hutton, et je le trouve magnifique et trop beau, quoi.
Ouais,
et pourtant, je suis un adulte, mais physiquement. Mais, physiquement, j'ai bien
après,
dit physiquement.
C'est dans la tête.
C'est ça, après tout est dans la tête, de toute façon. Mais non, c'est vrai que Torben Kullman, là, il a fait une collection de récits documentaires albums comme ça, qui sont sublimes, qui sont graphiquement, effectivement, très intéressants, et qui sont scientifiquement bons. Enfin, je veux dire, le mec a poussé le truc à dire, bah, ok, je vais faire un vrai truc scientifique, par contre. C'est pas juste un album à la con, c'est pas juste un album sur la théorie. Non, non. C'est la vraie théorie de la relativité expliquée, t'es là, tu es. Ok.
Expliqué, je suppose vulgarisé pour
ça. Oui, c'est ça, bien sûr. Mais puis surtout vu par cette souris, en fait. Donc c'est trop bien parce que ça vulgarise déjà, en fait. De base, le fait que ce soit une souris qui le fasse, bah, t'es pas dans un genre de calcul compliqué parce que du coup c'est une souris en fait.
Ouais.
Et elle fonctionne quand même comme une souris quoi.
Ça marche.
C'est trop intéressant. Zip, shibam,
pow, blow, whiz. Pour mon prochain comics, j'ai juste envie de dire Kowabunga.
Parce que les Tortues Ninja.
Tout à fait.
Yes.
Mais un Tortue Ninja un peu particulier. Je vais vous parler de The Last Ronin qui est mon deuxième coup de cœur de cette fin d'année. Je suis pas un très grand fan des Tortues Ninja. J'aime bien comme tout le monde, évidemment. Mais je lisais pas forcément les comics qui sortaient.
Oh la ville,
n'est-ce pas? Ça donne envie de chanter. Et du coup,
réflexe.
Alors je vais te rendre un peu triste parce que le pitch de The Last Ronin, c'est qu'il reste plus qu'une des tortues.
Ah merde.
Les trois autres se sont fait tuer.
Ah merde. Laquelle? C'est laquelle qui reste du coup?
Eh ben justement, je vais pas te le dire parce que pendant tout le premier chapitre de cette BD, on ne sait pas qui a survécu. Okay.
D'accord.
Et donc, okay. Parce que surtout, il a les comment dire les armes
des autres. Ouais, genre, forcément. Ouais.
Et donc du coup, on
tu sais pas laquelle
pas
utilise quoi. Ouais, c'est ça.
Et je vous conseille surtout de ne pas.
Les Splinter.
Splinter aussi.
bah, pas Splinter.
Je voulais t'épargner cette peine, mais voilà.
Pas le rat.
Et du coup, je vous conseille surtout de ne pas googler. The Last Ronin, pour pas vous faire spoiler justement,
ah ouais.
Parce que il y a notamment, je sais qu'il y a des certaines figurines qui existent justement de cet univers-là, qui spoilent allègrement sur qui est resté. Et du coup, c'est très très bon.
C'est quoi le pitch du coup?
Alors le pitch, c'est il reste plus qu'une des tortues et il va vouloir se venger.
Ok.
Il va vouloir se venger du petit-fils de Shredder. Qui est celui qui a tué justement ses frères.
Sérieux? Shredder encore lui? Jusqu'au bout?
Non mais justement, c'est pas Shredder, c'est son petit-fils.
Ouais, mais enfin bon, c'est de famille quoi, ça va.
Ah bah oui,
famille,
évidemment.
Et du sclérosé, coup, cette famille.
C'est vraiment très très bon. On a un récit un peu à la Dark Knight Returns ou à Akira. Non, parce qu'on a vraiment ce côté monde un peu futuriste avec trois couches. La couche inférieure qui est justement les bas-fonds, le lieu de la résistance. Et du coup, c'est vraiment très 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 bon. Même si vous n'êtes pas fan des Tortues Ninja, je vous le conseille parce que c'est super.
D'accord, ok. Et du coup, c'est écrit, enfin, tu vois, illustré, graphiquement parlant, c'est
graphiquement,
c'est proche des anciens mangas, enfin, des anciens comics.
Il y a une partie oui, parce que il y a justement Kevin Eastman qui revient pour faire qui est le créateur des Tortues, et qui du coup revient pour faire quelques petits passages justement sur les flashbacks.
D'accord, ok.
Et c'est vraiment graphiquement superbe, parce que du coup, on a deux dessinateurs et scénaristement, c'est génial.
Ouais, bah, du coup. Ok, cool. Allez, du coup, peut-être le dernier ou l'avant-dernier, on va voir ce qu'on a le temps de faire encore, mais bon, on verra. Moi, c'est mon grand coup de cœur en fantasy, c'est mon grand coup de cœur depuis des années, bon, c'est un pote aussi maintenant, Christophe Morieux, mais ça fait des années qu'on ne s'est pas reparlé, forcément, et les auteurs et leur vie, non, je déconne, il est cool, Christophe. C'était son premier livre à l'époque, le premier défi de Mathieu Hidalf, chez Gallimard. Mathieu Hidalf, notre célèbre série, que moi j'adore particulièrement, puisque Mathieu Hidalf, quand même, c'était son premier livre, il l'a écrit à 12 ans, il l'a envoyé à Gallimard à 12 ans, parce qu'il est de l'époque Harry Potter, lui. Donc, en fait, il a vu que Gallimard sortait Harry Potter, il a fait, bah tiens, je vais leur envoyer mon livre. ouais, il avait un peu...
Pourquoi pas, hein.
Bah écoute, Gallimard lui a répondu gentiment, bah il retravaille et vient nous voir. Et il leur a renvoyé une deuxième mouture à 18 ans. Et il s'est fait éditer 2 ans plus tard. Voilà.
Ah oui, donc...
Le mec est bon.
Oui, le mec est bon,
le mec est bon. Parce que, bon, Gallimard qui lui dit, bah retravaille un peu ta copie et tu reviens nous voir. Déjà, ouais. Je pense que ça veut dire que le truc était pas trop dégueulasse.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est... En l'état, c'était pas
vendable,
moyen, mais bon.
Mais il y avait du potentiel, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc Mathieu Hidalf, c'est quoi? C'est une histoire très drôle, puisque c'est une histoire qui, donc comme j'ai dit, il prend lui, il est de l'âge Harry Potter, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il a vraiment l'âge, il avait 10 ans quand le premier Harry Potter est sorti, enfin vraiment il a grandi avec ça, donc ça l'a beaucoup inspiré, si je puis dire, et ce qui est pas grave en fait, puisqu'il a fait sa sauce, que je préfère moi par rapport à Harry Potter d'ailleurs, Mathieu Hidalf. Mais Mathieu Hidalf, c'est un anti-héros. Ce que j'aime bien déjà, c'est un anti-héros, donc moi ça m'amuse toujours. Mathieu Hidalf, c'est un jeune garçon qui en fait est né le même jour que le roi local. Et surtout, du coup, son père l'oublie régulièrement parce qu'en fait, son père est noble. Donc, son père oublie allègrement son anniversaire. Et donc, Mathieu Hidalf fait une farce chaque année. Mais genre la farce de chez la farce, quoi. Genre, pour ses 10 ans, faut savoir que tout le royaume est alimenté en lumière par des petites fées. On est dans un monde assez fantastique. Donc, la lumière du royaume, tout ce qui fonctionne à la lumière, ce qui peut donner du courant quelque part, c'est les fées. En gros, c'est ça. Et elles sont très heureuses, hein, c'est leur job de faire de la lumière parce qu'elles sont comme ça, tu vois, c'est des vers luisants, elles se posent pas la question. Et Mathieu Hidalf, au jour de ses 10 ans, a convaincu de se mettre en grève. Pendant 6 mois, le royaume a été plongé dans le noir complet parce qu'ils ont pas d'autres moyens de lumière. Voilà. C'est pour dire le niveau des farces de Mathieu Hidalf, quoi. On est sur de la farce, quoi.
C'est ça.
Donc il est attendu clairement pour ses 11 ans comme loup blanc, quoi. Vraiment, lui, on l'attend, il y a des journalistes au manoir, enfin bref, tout le monde. Et cette année-là, les frères Estaff, les terribles frères Estaff, qui sont les ennemis en quelque sorte du royaume, on va dire, ont décidé de repasser à l'assaut en quelque sorte aussi, et de se mettre dans la boucle, si je puis dire, des gens qui font chier tout le monde. Et Mathieu Hidalf, ça fait un an qu'il prépare sa vanne, puisque du coup il passe un an à préparer sa farce, et surtout il prépare sa farce pour quand même avoir des cadeaux d'anniversaire lui.
Ouais.
L'intérêt, c'est qu'il a fait signer des papiers par l'avocat de la famille et son père pour être sûr qu'il aurait des cadeaux quoi qu'il se passe, quoi.
D'accord.
Enfin, je veux dire, il a trouvé des textes de loi et tout ça pour être sûr d'avoir des cadeaux quand même. Bah ça reste un enfant de 11 ans.
Hein. Oui, bah oui.
Il veut ses cadeaux, quoi.
C'est ça.
Donc vraiment, il a tout prévu. Et les frères Estaff, c'est le seul truc qu'il a pas prévu, et clairement, il a pas prévu de se faire avoir non plus. Donc il va se mettre en chasse en quelque sorte des frères Estaff, accompagné de son chien à 4 têtes, dont une qui est tout le temps malade et une qui a tout le temps envie de dormir, qui est pas pratique pour un chien.
C'est ça.
Et ses sœurs qui sont adorables, Juliette d'Airain, Juliette d'Argent et Juliette d'Or. Oui, il a pas d'imagination, le père Hidalf, il a jamais trouvé trop d'idées.
C'est ça.
Mais du coup, c'est super drôle, c'est bourré d'humour. Le premier volume est un peu dans tous les sens, comme j'aime bien le dire, c'est-à-dire que ça part un peu partout. Mais à partir du deuxième volume, on retrouve un fil rouge avec les frères Estaff et justement l'académie, puisqu'il y a une académie de sorciers en quelque sorte à la Harry Potter, justement, une académie comme ça. Et du coup, on va retrouver cette espèce de fil rouge de ce couloir, on va dire, dans un couloir, donc, qui nous permet de nous dire, ah bah attends, ça va par là et tout ça. Donc, du coup, c'est une super saga. Moi, je considère beaucoup mieux qu'Harry Potter, dans le sens où, moi, mon défaut que j'ai pour Harry Potter, enfin, c'est pas un défaut, mais mon unique reproche que j'ai à Harry Potter, c'est que je trouve que tout est centré autour du personnage d'Harry Potter en général. Alors que dans Mathieu Hidalf, notamment dans le 4e volume, les 3/4 du volume, il est dans le coma. Donc, d'accord, on suit tous les autres personnages, en fait. Et tous les autres personnages sont vachement intéressants. Et du coup, et lui, pareil, dans ce que j'aime bien dans Mathieu Hidalf, c'est que c'est un anti-héros. Ce sera jamais le héros de notre saga. Jusqu'au dernier volume, c'est pas le héros.
Ouais.
C'est le gamin trop curieux, par contre. C'est le gamin qui est super inventif, certes, mais qui est trop curieux, même pour son propre bien. Et qui fait un peu n'importe quoi, du coup. Donc, c'est pas un héros. C'est clairement pas un héros. Et du coup, c'est trop, trop bien. Donc voilà, super saga à partir de 12 ans. J'aime trop. Foncez. Allez-y, c'est du poche. Et c'est génial. Zip,
Alors, je vais parler juste vite fait
d'un manga. Non, tu finis. On finit juste le dernier quand même. On finit tranquille.
Alors, je vais parler de Léviathan, qui est, pareil, l'un de mes gros coups de cœur de cette année en manga. Du adulte. J'ai pas prévu pour les jeunes. Je laissais mon collègue faire. Et du coup.
C'est de ma faute.
On est sur un vaisseau spatial qui est en gros une colonie de vacances entre deux planètes. Sauf qu'ils vont se prendre un champ d'astéroïdes qui va leur couper le système de communication et le système pour créer l'oxygène. Donc du coup, le prof qui est en charge de la classe va avoir le petit robot qui va lui expliquer tout ça. Et il va lui dire que la seule solution, c'est de prendre, enfin, de se mettre dans.
De jeter les élèves dans l'espace.
De se mettre dans une capsule cryogénique, du coup. Ah. Sauf qu'il y a la place que pour un adulte ou deux enfants. Et donc le prof va bien se garder de dire ça à ses élèves.
Ouais, c'est pour ça qu'il allait être honnête et faire un Shifumi, mais même pas. Quoi.
Sauf qu'il y a deux élèves qui l'ont entendu, évidemment.
Ah.
Et du coup, on va très largement se diriger vers un battle royale.
C'est ce que j'allais dire.
Voilà.
Dans ces cas-là, c'est.
Donc, c'est très, très, très bon. C'est un battle royale, mais un peu plus court. Parce que clairement, on va être sur 2 à 3 tomes. Là, il n'y a que 2 tomes de sortie, mais vu comment on voit l'histoire.
Vu le nombre de survivants à la fin du 2e tome, il ne va pas en rester beaucoup pour faire le 3e, quoi.
Voilà. Donc, c'est vraiment très bien fait. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les premières pages du manga du tome 1, on suit en fait des pilleurs de vaisseaux qui vont arriver sur le vaisseau et qui vont découvrir le journal intime des élèves.
Du coup, tu remontes dans le temps après.
Voilà. Fait. Et du coup, au fur et à mesure qu'ils vont explorer le vaisseau justement pour essayer de le piller, ils vont retomber sur les pièges, ils vont retomber sur des petites choses comme ça.
Ah, les pièges, carrément.
Ouais, carrément.
Ah oui, d'accord. Et du coup, c'est un vrai battle royale, quoi.
C'est ça. Et du coup, c'est vraiment très, très bien fait. Et c'est un des battle royale like qui est vraiment très, très, très bon.
D'accord, ok, un petit battle royale pour finir. Pour se mettre dans l'ambiance, quoi.
C'est ça, voilà.
C'est l'ambiance des repas de famille.
C'est ça, après toutes ces jeunesses.
À ne pas reproduire chez vous.
Voilà, c'est ça. Après toutes ces jeunesses, je voulais finir sur une note bien noire.
C'est ça, bien positif, ça.
C'est ça.
Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là, du coup. On a fait notre petite demi-heure tranquillos.
Tout à fait.
Je te laisse conclure.
Eh ben, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine en essayant d'être un petit peu plus régulier. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.
Ben voilà, moi j'ai pas mieux à dire. Bonne fête de fin d'année, profitez bien de votre famille et puis à très vite.
Je rajouterais que les livres, n'oubliez pas que ça s'achète en librairie et ça se lit en bibliothèque.
Tout à fait. Et bonne fête de fin d'année.